cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour le Quatuor Eben.
Bonjour.
Alors moitié de Quatuor, puisque Mathieu Herzog, alto, et Raphaël Merlin, violoncelliste, sont là. Vous êtes là parce que déjà vous publiez votre premier album chez Virgin Classics, Ravel, Debussy et Fauré. On peut dire que votre nom monte dans le milieu du Quatuor à cordes depuis maintenant plusieurs années. Alors on pourrait peut-être commencer par cet album. Pourquoi ce répertoire? Pourquoi cet ordre? Évidemment, ce sont des trois œuvres, Quatuor à cordes de Ravel, Debussy et de Fauré, qui se parlent historiquement. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a été votre choix pour cet album-là?
Donc en fait, c'est vrai que nous avons commencé à travailler le Quatuor à cordes avec le Quatuor de Ravel. C'est ce qui nous a formés, ce qui on a travaillé le plus, joué le plus, qui est là avec nous depuis 10 ans. Et ça faisait très très longtemps qu'on se demandait quand est-ce qu'on allait enregistrer, parce qu'on avait beaucoup de demandes dans les concerts de gens qui nous disaient quand est-ce que vous allez le faire. Et pour le couplet, c'est vrai que Ravel et Debussy, c'est un disque qui a été fait par énormément de gens différents depuis 50 ans. Des Ravel, Debussy faits par des quatuors, il y en a partout. Nous, on voulait faire ça, mais aussi éviter de faire comme tout le monde. Donc on a rajouté en plus Fauré, qui est un... Alors là, il y a une filiation totale, c'est-à-dire que le Quatuor de Ravel est dédié à mon cher maître Gabriel Fauré. Il est vrai que dans la musique classique, on aime bien essayer de faire des associations de styles qui marchent bien. Donc en général, où on fait un seul compositeur, ou si on fait plusieurs compositeurs, on fait effectivement une même époque. Et donc là, on est en plein dans l'impressionnisme français, donc c'était à peu près évident. Et en plus, Virgin, c'est quand même la seule major actuelle française qui reste encore. Et voilà, Quatuor à cordes français dans une grande maison de disques française qui joue des œuvres françaises. Donc tout est assez logique.
Est-ce qu'il n'y a pas justement un danger de s'attaquer à des œuvres qui ont été enregistrées un nombre de fois incroyable? Des enregistrements, j'imagine peut-être que chacun au sein de la formation, vous avez vos versions préférées, fétiches. Donc quelque chose comme ça, qu'en plus, donc des œuvres que vous avez jouées depuis longtemps. Est-ce que c'est encore pas plus, j'allais dire, que la montagne n'était pas encore plus haute presque?
Si, un peu, oui. Un peu, on s'est retrouvés... oui et non. Ce qui est très bizarre, c'est que pour nous, ça nous paraissait évident. Pour nous, on pensait que c'était une musique qui nous allait bien et que normalement, on devrait être à l'aise. Et en même temps, on s'est rendu compte, par exemple, que les critiques du disque, à l'étranger, on a souvent lu cette phrase « Un quatuor à cordes français qui enregistre des quatuors à cordes français, c'est un pari ». Alors, on trouvait ça un peu étonnant, puisque finalement, ça paraît très logique. Normalement, c'est comme les Allemands enregistreraient Beethoven, ça paraît très normal. Mais c'est soi-disant à Paris, alors non, on l'a vu nous sous le plaisir du fait que ça, c'est vraiment la musique qui est dans notre sang et c'est partie des musiques qu'on aime le plus. Donc on l'a enregistrée et avec beaucoup de plaisir encore, on l'écoute aujourd'hui. On n'écoute pas souvent nos disques, je pense qu'on n'est pas les seuls. En général, les artistes n'aiment pas forcément réécouter ce qu'ils ont fait, mais celui-là, on l'aime bien et on l'écoute encore.
Alors l'autre aussi différence peut-être de jouer comme ça une œuvre qui est dans votre répertoire depuis presque le début, la différence c'est que c'était en studio. Est-ce que ça aussi c'est un élément différent, c'est-à-dire de ne pas se retrouver face à la scène, de pouvoir s'arrêter, recommencer, se réécouter, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi également sur votre lecture de ces œuvres?
Ben oui, mais vous savez, on a fait un seul disque en live en fait, le disque Haydn qui était notre entrée sur le marché du disque. Après, le Bartok, on l'avait aussi fait en studio. Ensuite, on change de label. Et en arrivant chez Virgin, la question ne se pose même pas de savoir si on fait live ou studio, tout simplement parce que l'enregistrement, c'est de toute façon un témoignage à un moment M de notre vision de l'œuvre. Même, j'allais dire, tout compte. Au moment d'enregistrer, on est tout aussi fragile qu'en allant sur scène, on est tout aussi sensible à comment on a mangé le matin, est-ce qu'on est de bonne humeur, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'il fait beau. Et donc, partant de ça, puisque l'enregistrement c'est un instantané comme une photographie, il faut le faire le plus fidèle possible à une idée qui serait une idée au contraire constante, une conception d'une œuvre, qu'est-ce qu'on a envie de dégager avec tel ou tel mouvement de telle ou telle œuvre. Et pour ça, l'enregistrement en studio permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail et dans la finition. Le live, c'est un pari très différent. C'est plutôt essayer de trouver et de pérenniser un moment qui va être un moment de spontanéité, comme un peu une improvisation. Parce que sur scène, finalement, en face d'un public, c'est comme si on était en permanence stimulé par des choses inaudibles, mais qui nous conditionnent tout de suite. Et une phrase va toujours répondre à la phrase d'avant. Sur le disque, on va pouvoir, pour chaque phrase, essayer de dire un espèce d'absolu. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a une recherche d'absolu dans l'enregistrement en studio. Qui peut, oui, on a envie de laisser un produit à la postérité, qui soit pérenne, même si c'est très, très, par nature, très éphémère aussi. On sait très bien que déjà maintenant, aujourd'hui, moins d'un an après, on ne joue pas du tout le Debussy de la même façon. Et ça n'enlève pas l'aboutissement au moment d'un disque qu'on peut faire dans le travail de studio.
Comment intervient, j'allais dire, l'aspect presque technique, c'est-à-dire la production, le son? Au moment de l'enregistrement, est-ce que vous êtes assez perfectionniste? Est-ce que le fait de se réécouter, etc., est-ce que c'est quelque chose, vous parlez voilà, d'objet final, qui même si après, presque un an après, finalement, serait différent? Comment vous abordez cet aspect-là?
C'est vrai que quand on est en studio, si on compare à des enregistrements de pop ou même de jazz ou autre, parce qu'on a fait aussi des choses, nous, en dehors de choses classiques, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que le principe, c'est en général, on enregistre un bout, ou même un très grand bout, un mouvement entier, ou même des fois un quatuor d'un coup, et puis on va écouter. Et c'est là où ça devient très compliqué, et voire traître des fois, parce qu'on peut... Déjà, les impressions ne sont pas une valeur sûre. Quand on est en train de jouer, on peut avoir l'impression que tout est très bien, et finalement, en fait, on est complètement fatigué, on n'entend plus rien. Et on a
Il y a eu des débats en interne, justement, sur les...
Ah bah complètement, c'est toujours en débat. Mmh. On est en permanence en débat, on travaille pendant l'enregistrement, il y a des moments où on bloque, où on dit stop. On n'enregistre plus, là, il faut qu'on travaille. On passe 2 heures à travailler un truc qu'on joue depuis 10 ans. Le plus difficile à enregistrer, ça a été le Quatuor de Ravel, justement, puisque c'est celui qu'on a le plus joué. Donc, y a toujours des débats. Et après, quand on va écouter, il y a débat entre nous, le directeur artistique, éventuellement même l'ingénieur du son. Et là, on n'arrête pas de papoter.
Sur ces quatuors-là, des versions comme ça qui vous tiennent plus à cœur que d'autres dans l'histoire du disque?
Pour Ravel et Debussy, moi je citerais le quatuor Isaïe. Quand ils étaient jeunes, ils avaient cette fraîcheur qui est très impressionnante, qu'on entend surtout, je trouve, dans le jeu du premier violon de l'époque, Christophe Giovannetti. Il y a quelque chose de très, très humain, très... Qui rend vraiment cette espèce d'hypersensibilité. C'est très... en fait, c'est... Comment... Il y a un mot pour ça.
Fleur de peau.
C'est à fleur de peau, mais c'est... c'est épidermique, en fait, voilà. Et pour le Forêt, moi, je reste très admiratif de la version du Quatuor Rosamonde. Pas simplement parce qu'elle montre ce texte qui est tellement riche de façon très claire, et donc on peut l'écouter, ne pas s'enlacer, on rentre dans la partition directement. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence pour le Forêt aussi.
Oui, Quatuor Isaïe, sûr. Ensuite, il y a une version de Ravel, uniquement du Quatuor Borodine, jeune aussi, que j'adore, où il y a vraiment des trucs extraordinaires. Orlando aussi, pour Ravel. Pour Debussy, finalement, j'en connais pas tant que ça qui m'ont complètement passionné. Et pour Fauré, moi, c'est un autre Quatuor français que le Quatuor Rosamonde, c'est le Quatuor Paridi, qui a fait une très belle version il y a longtemps, il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements du... Peut-être pas 30 ans, parce que je vois mon collègue me regarder. Non, peut-être pas 30 ans, 20 ans.
Ils n'existaient pas. Je ne sais pas. Ils l'ont enregistré.
Les premiers Paridi, c'était il y a 20 ans. D'accord. Au moins. Ouais. Donc voilà, qui très très belle version aussi. Mais c'est vrai que Forêt, il n'y a pas beaucoup de concurrence finalement.
Est-ce que rétrospectivement, quand vous êtes sorti de cet enregistrement, vous aviez une lecture différente de ces œuvres qui étaient en vous déjà depuis pas mal de temps? Est-ce que vous les avez vues sous un jour? Alors évidemment, vous avez dit que c'était un instant T, etc., et que même aujourd'hui c'est différent, mais est-ce qu'en sortant, vraiment, vous aviez une vision différente de ces œuvres ou pas tant que ça?
C'est pas radicalement différent, mais il y a une évolution très progressive. C'est vrai que c'est un peu bizarre quand on passe une semaine en vase clos à chercher la version idéale et que le concert suivant où on doit jouer une de ces œuvres-là, on arrive sur scène et on fait la répétition, 17h, le concert est dans 3h, et là on se dit « Ah, au fait, j'aimerais bien, ici, cette phrase-là, il y a une inflexion qu'on n'a jamais vraiment sentie, on pourrait peut-être la mettre en valeur comme ça. » Alors du coup, on se dit « Mais quoi, on l'a enregistré la semaine dernière, attends, tu débloques ou quoi, qu'est-ce que tu veux faire ? C'était pas bien, dis-le, si t'es pas content de notre disque, on le refait. » Et non, pas du tout. En fait, ça, c'est vraiment un processus tout à fait normal. Le musicien, c'est plus fort que lui, il ne peut pas rester de façon définitive au même stade de sensibilité à tel ou tel aspect de la musique. Là, c'est très mystérieux. Pourquoi un tel musicien va être plus sensible à l'harmonie? Pourquoi un autre va être plus sensible à une certaine régularité rythmique, à l'accumulation de tensions dans une grande régularité pour finalement conduire à un climax Pourquoi un troisième musicien va être absolument réfractaire à tel ou tel type de sonorité employée, alors que les trois autres dans le quatuor vont dire « Ah ben non, mais ça sonnait bien ». Et ça, c'est le travail de quatuor par nature, mais j'imagine aussi assez bien qu'un pianiste qui enregistrerait un programme de récital modifierait tout autant son interprétation quelques jours après seulement, uniquement parce qu'on peut pas... C'est pour ça qu'il y a quelque chose de paradoxal dans l'enregistrement, c'est que on va prétendre délivrer une version qui a quelque chose de définitif, puisqu'elle elle ne se transformera plus, alors que le musicien lui-même va toute sa vie se transformer au contact de cette musique-là. Mais bon, faut aussi bien dire les choses, un disque, c'est pas seulement... c'est peut-être même pas une œuvre d'art, un disque. C'est peut-être tout simplement un documentaire, ou pire, une carte de visite, un truc publicitaire. On peut le voir à tous les niveaux. Moi, je sais, pour l'avoir vécu sur certaines œuvres, certains enregistrements, que j'ai éprouvé des émotions très très fortes avec l'enregistrement. Et ça, c'est irremplaçable. On le trouve même pas sur scène. Mais parfois sur scène, quand cette même émotion est palpable, elle est vraiment partagée humainement. Il y a quelque chose d'unique, qu'on ne peut pas faire rewind ou revenir au début de la plage. En fait, c'est très personnel. L'écoute d'un disque est très personnelle, alors que l'écoute d'un concert, c'est beaucoup plus collectif.
Pour vous, dans votre formation, quelle valeur avait l'album, les albums sur lesquels que vous avez écouté, les albums d'autrui, des autres albums? Est-ce que pour vous, c'était... Alors évidemment, il y a les musiciens qui ne sont plus vivants, qui ne jouent plus, donc qui vous permet effectivement d'accéder à leur... Mais est-ce que c'est plus le côté carte vide? C'est-à-dire, c'est aussi, il y a la partition d'un côté, mais il y a aussi, après, il y a le live, et il y a ensuite les albums des autres. Donc c'était plus sous cet angle-là, je voulais... Quelle valeur? Est-ce que vous êtes des musiciens très attachés au disque, qui avaient toujours été très, ou pas tant que ça, finalement? C'est un peu toujours deux écoles. Un peu.
On est quand même tous différents aussi à l'intérieur du quatuor. Moi, je peux répondre pour moi-même. C'est vrai que pour moi, le disque, ça a toujours été deux choses complètement distinctes. Il y a les disques des gens qui sont des instrumentistes à cordes, comme moi, et qui m'ont appris en écoutant ce qu'ils faisaient. Ça m'a aidé, par exemple, à faire des progrès, tout simplement, en entendant le son de Oistrakh et en le trouvant le plus beau du monde, et en prenant après mon alto ou un violon ou n'importe quoi, en fait, on s'en fout. Et voilà. Et au même titre qu'en pop, à une époque de ma vie, j'ai été guitariste et j'écoutais Jimi Hendrix ou Stevie Ray Vaughan puisque je faisais un peu de blues et que c'était une base parfaite pour apprendre des plans, des choses comme ça. Il y a aussi ça dans la recherche de l'album. Et après, il y avait tout simplement les œuvres. Quoi. Moi, c'est vrai que j'ai plus, pour moi, je suis plus attaché aux œuvres que j'ai écoutées. Par exemple, je ne sais pas, une œuvre que j'aime par-dessus tout qui est Daphnis et Chloé de Ravel. C'est pas tous les jours qu'elle est donnée à Paris en concert ou ailleurs. Donc, si moi je veux l'écouter, comment je fais? J'ai pas d'autre solution que d'acheter une version, de l'écouter. Voilà. Et alors, après, ce que je trouve assez extraordinaire dans le classique, parce qu'à ce moment-là, si tout le monde fonctionnait comme moi, il suffirait d'acheter l'œuvre qu'on aime bien par n'importe qui, puis on serait content. Non, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand j'étais petit, j'écoutais Daphnis dans une version par un chef qui s'appelle Sinopoli, qu'en ce moment je l'écoute par Karajan, que je l'ai écouté par Georges Prêtre, que j'en ai écouté une autre par Armin Jordan, et ainsi de suite, par des orchestres différents, et que. Je trouve ça extraordinaire, cette œuvre que je connais. Vraiment, je suis au bout des doigts, au moins à l'écoute. Je peux arrêter de l'écouter, trouver une nouvelle version et me remettre à l'écouter comme si c'était la première fois que je l'ai entendu. Ça, c'est pas mal dans le classique, parce que ça, vous n'avez pas l'équivalent, en fait, dans le reste des choses, parce que quand on prend la pop, le jazz ou autre, si on fait une version, c'est pour changer. C'est pour faire une reprise. Et une reprise, c'est... personne va... va prendre Yesterday et des Beatles et faire la version des Beatles, quoi. Il va prendre sa version et il va faire une version hard rock, une version rapide, lente, avec un piano seul, avec je sais pas quoi, enfin voilà. En classique, vous avez la même chose, tout ça se ressemble, mais c'est différent.
Donc la différence, c'est que la partition, est immuable. C'est juste ça. Parce que même si une chanson comme Berimbau, qui est la reprise de Nougaro d'un thème brésilien, je crois, et qui a été chantée par, comment elle s'appelle, Morane, bah, pour moi, qui ne connaissais pas vraiment cette chanson quand je l'ai entendue par Morane, j'ai découvert une chanson. Et ensuite, avec Nougaro, parce que je ne connaissais encore pas très bien, j'ai reconnu la chanson avant tout. Et c'est, à l'écoute, on ne peut pas être sûr, quand on découvre quelque chose, que la partition a été modifiée ou pas. Mais il y a une espèce de valeur patrimoniale dans la musique écrite, immuable, qui fait que le rôle de l'interprète est beaucoup plus subtil que dans d'autres styles de musique, parce que sans toucher au texte, il peut faire ce que Mathieu a décrit, c'est-à-dire faire en sorte qu'à l'écoute, on ait l'impression, alors que ce n'est pas du tout le cas, de redécouvrir l'œuvre. Mais il n'y a peut-être pas vraiment de frontières très nettes aussi, puisque même en musique écrite, il existe l'aléatoire. Et même dans la pop, il y a des repères très stables dont qu'on va pas quitter, quoi.
Alors si on fait un petit bond en arrière, est-ce que c'est consciemment, inconsciemment, aléatoire, le hasard, plein de choses comme ça, qui fait qu'on décide de rentrer, j'allais dire, en quatuor, comme on rentre un peu en religion, c'est-à-dire de signer un peu pour une formation, un mode de vie musicale qui est quand même assez à part.
Je pense que c'est différent selon tous les quatuors, évidemment. Et pour nous, c'est assez drôle, parce que pendant que vous posez la question, j'étais en train de me dire qu'aucun de nous, à part le premier, n'a choisi. C'est-à-dire que moi, comme je vous le disais, j'étais guitariste, j'avais arrêté la musique. Donc moi, je fais partie des deux membres fondateurs qui sont là depuis le début. Raphaël est arrivé après, et Gabriel, le second violon aussi. Et en fait, c'est Pierre, le premier violon, qui est venu me chercher. Puis ensuite, je suis venu chercher Gabriel. Et puis en fait, finalement, après, tous les trois, on est venu chercher Raphaël. Et en fait, j'ai un peu l'impression que pour le bien de tous, parce qu'aujourd'hui, on ne va quand même pas se plaindre, on a presque été forcés, finalement. On avait envie, mais on n'avait pas envisagé. Je pense qu'aucun de nous n'avait vraiment envisagé l'idée. Et même si on l'avait envisagé, c'était impossible de savoir ce que c'est vraiment. Parce que vous avez complètement raison de parler de religion, mais c'est encore plus que ça. C'est religion, c'est couple, mais couple à quatre, donc multiplier les problèmes par deux. C'est toute une série de choses complètement ridicules. Et même un couple, je dirais que quelque part, c'est plus facile, parce qu'a priori, un couple, vous êtes pas, on ne vous oblige pas à vous enfermer dans une pièce pendant 8 heures pour vous critiquer. A priori, si on vous enferme dans une pièce pendant 8 heures, c'est plutôt pour essayer de passer du bon moment. Après, il y en a des durs. Mais là, nous, carrément, notre contrat, c'est d'arriver et de donner vie à une œuvre. Et finalement, c'est par la critique. C'est en disant à l'autre, tu pourrais faire ça mieux, tu pourrais le faire autrement, qu'on arrive à créer une interprétation. Donc en fait, c'est vrai que voilà, aucun de nous, à part Pierre, le premier, qui lui a dit un jour, je veux faire un quatuor, mais est-ce qu'il voulait faire un quatuor pour faire une carrière? Je crois pas. Est-ce qu'il voulait faire un quatuor pour gagner sa vie? Même pas. C'était une envie de faire de la musique de chambre. Moi, c'est l'envie de la faire de la musique de chambre qui m'a amené aussi. Et je suis pas du tout rentré dans le quatuor en pensant que je pourrais un jour gagner ma vie avec ça. C'était pas du tout une option. Alors au bout d'un moment, c'est devenu une option. Et déjà, quand Raphaël est arrivé dans le quatuor, c'est-à-dire au bout de 3 ans, c'était déjà beaucoup plus précis qu'on venait pour, là maintenant, pour en faire notre métier. Mais en fait, on n'a pas choisi, pas réellement.
Ça a été une succession aussi d'encouragement. Hein. Le rôle, par rapport à des jeunes artistes, le rôle d'un professeur, du public, les premiers organisateurs de concerts ou producteurs, il est quand même capital. Parce qu'on ne s'aventure pas dans un truc artistique sans au moins la conviction qu'on a un truc spécial à donner, un truc particulier, un message particulier à transmettre. Ça, c'est la formule qui nous fait rire parce qu'on l'a employée dans notre toute première interview. Nous étions convaincus d'avoir un message particulier à transmettre. Alors, on peut le redire, hein, on est toujours convaincus d'avoir un message particulier à transmettre, donc on assume, on continue.
Mais tous les artistes sont convaincus d'avoir un message particulier à transmettre. On ne fait pas ça juste pour... Je crois que personne... Même les gens qui font... On a le plus une impression d'un côté mercantile, même ces gens-là, on est tous persuadés qu'on a des choses à donner. Quoi.
Ça nous échappe, en plus.
Oui. En plus, ça nous échappe, parce que souvent, souvent, on se fait la réflexion, on se dit, tiens, c'est marrant, en ce moment, il nous arrive plein de choses, parce que c'est vrai que depuis qu'on est dans cette jolie maison de disques et Virgin, il nous arrive plein de choses, par exemple, cette interview. mais pourtant, on a toujours l'impression que ça va lentement. Que c'est tellement une succession d'étapes qu'on a suivi nous de A jusqu'à Z. Il y a des gens qui nous découvrent du jour au lendemain et qui se disent tiens, c'est incroyable ce quatuor, d'un coup on entend parler de partout, alors que pour nous c'est l'impression que ça va très lentement, tout petit, et que ça démarre et ça démarre pas. C'est assez drôle, en fait on est C'est très bizarre d'être acteur et spectateur en même temps de ce qu'on peut faire en musique. C'est quand même un rapport artistique très très fréquent, je crois.
Mais c'est la particularité des interprètes, ça. Les interprètes sont obligés d'être acteurs pour vraiment délivrer cette musique-là, mais ils sont aussi spectateurs, ne serait-ce que de la partition. Et en regard du compositeur, on doit aussi être réceptif. Alors que le compositeur n'a pas besoin d'être spécialement spectateur, ou alors il est à une autre échelle. Et le spectateur, il est l'auditeur, il n'est pas là pour
être acteur.
Il participe à sa façon aussi quand même, mais il n'est pas acteur.
Je veux revenir vraiment sur cette spécificité du quatuor, c'est-à-dire, désolé d'insister lourdement, sur cette façon effectivement d'avoir ces visions, même si effectivement, comme vous l'avez bien décrit, il y a eu ce côté un peu par hasard, c'est venu finalement, s'il n'y avait aucun plan, quand vous aviez 5 ans chacun en disant « ça y est, je serai le quatuor », voilà, exactement. de soudain, d'avoir, donc, vous travailliez déjà la musique, vous étiez dans votre instrument déjà, et la vision est complètement différente, c'est-à-dire de ce partage. Vous avez évoqué cette comme une histoire finalement comme un couple, mais sauf qu'il y a 4, quoi. C'est quand même, il y a une spécificité, il y a quelque chose où finalement est-ce qu'on arrive à encore penser sa musique s'extraire soi-même, c'est-à-dire que c'est vraiment un dialogue. Enfin, c'est une voix qui part avec 4 cordes vocales, quoi.
Ah oui, c'est beaucoup plus. Encore une fois, j'aime bien faire des rapprochements avec les groupes de pop ou autre, parce que moi, quand j'avais 14 ans et que je faisais des groupes de pop, on voulait faire une carrière dès le premier jour. Hein. Vraiment, on pensait pas juste à faire de la musique pour faire de la musique, quoi. Et donc, pour revenir à ce que vous dites, oui, il y a un côté, le quatuor à cordes est, la seule formation ou groupe au monde où on peut autant perdre et gagner sa personnalité à des moments différents. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est complètement une sorte d'esclave de la partition, des 3 autres, de ses problèmes, de ses propres problèmes personnels et techniques et tout ça. Et puis il y a des moments où, au contraire, on est une personnalité qui peut vraiment s'exprimer et sortir, entre guillemets, un peu, ou pas sortir, mais apporter vraiment ce qu'on a de personnel là-dedans. Et ça, je crois que c'est très très rare dans la musique. Et en même temps, on est quand même le même instrument, même si on a des différences. Les 2 violonistes, évidemment, c'est le même instrument, mais comme ils ont des rôles différents, on pourrait dire que c'est tout aussi différent qu'un violon, un alto. Mais combien de fois on dit à son collègue violoncelliste, on lui dit mais joue comme si c'était un violon, et inversement. Et on dit là, tu vois, ça manque de grave, joue un peu comme si c'était un violoncelle. On dit ça au premier violon alors qu'il est haut perché en train de faire des cris d'oiseau. Donc c'est quand vous dites une seule voix. Je ne suis pas sûr que c'est uniquement l'objectif d'un quatuor à cordes, voilà, en fait. Pardon. Je ne pense pas que l'objectif d'un quatuor à cordes, c'est uniquement de jouer comme s'il y avait un seul instrument. Parce que s'il y avait un seul instrument, c'est chiant. Alors qu'à 4, ce n'est pas chiant. Donc, il faut aussi cultiver ces différences de style, tout en essayant de faire qu'on soit tous au service les uns des autres.
Ouais. Finalement, pour résumer, on pourrait dire que chacun doit essayer de donner le meilleur quart de lui-même.
Ouais.
C'est un 4 quarts, le quatuor c'est un 4 quarts.
Je trouve un petit texte assez court de l'écrivain Georges Duhamel, extrait de l'éloge de la musique de chambre. Il parle du quatuor à cordes. Alors, ça m'intéresserait d'avoir votre commentaire là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très long. Hein. Alors, le texte est le suivant. Le quatuor à cordes nous donne l'image d'une société parfaite. Il n'est pas comme l'orchestre une nation, mais plus exactement une famille. Son chef existe, mais comme le père dans une famille heureuse, il ne fait pas montre de ses prérogatives. Il ne se tient pas sur un trône, à la vue de tous. Il est assis parmi les siens et travaille avec les siens. Il ne manifeste pas sa volonté avec une baguette, mais simplement par un mouvement imperceptible de l'archet, du menton ou du nez, par un infime clignement de paupières, parfois même par une communication quasiment interne, par une manifestation de l'âme. À cause de cette structure intime, à cause de cette harmonie spontanée, naturelle et préétabli, le quatuor nous donne plus encore que l'orchestre l'heureuse impression que l'ordre n'est pas impossible à l'homme. Il nous prouve aussi que cet ordre est la récompense admirable des petites associations.
Eh ben, j'aime beaucoup ce truc. J'aimerais bien le garder.
À la fin.
Je trouve qu'il est pas loin de la parfaite vérité, mais en fait, tout simplement.
Oui, en tout cas,
c'est un objectif. En tout cas, ce qu'il dit, c'est ce qu'on devrait être. Voilà. Si on était un.
Oui, de tous les quatre.
Chacun un chef, chacun
une. Oui, bien sûr, non, mais il ne parle pas que du premier.
Non, ben c'est-à-dire que si, ça dépend quand est-ce qu'il l'a écrit, mais s'il l'a écrit, il date de quand, ce monsieur?
Oh, c'est assez vieux, c'était le père du journaliste Alain Duhamel.
Donc il a.
Milieu du siècle dernier.
Voilà, donc à cette époque-là, c'était encore beaucoup d'équatoires qui portaient le nom de leur premier violon, donc c'était assez implicite. L'équateur était dirigé par le premier violon, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équateur sont encore plus démocratiques. Mais ça convient. Hein,
il suffit de dire que son chef existe, sauf qu'il change de chef de temps en temps maintenant. Puis voilà, c'est tout. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que c'est ce qu'on devrait être, c'est-à-dire une démocratie presque parfaite. Un vrai. Bah, encore une fois, le 4 quarts de mon cher collègue, il n'a pas tort. C'est-à-dire que si chacun des quarts est parfaitement à sa place, bah, ça donne un truc presque parfait. Perfection, c'est ennuyeux aussi, donc on n'en a pas besoin là-dedans. Mais juste de. C'est vrai qu'il n'y a pas. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien en quatuor aussi, c'est que c'est pas. Quand on vous met un chef d'orchestre, si le mec il a un charisme incroyable ou s'il n'en a pas du tout, il est toujours chef d'orchestre. Donc s'il a un charisme incroyable, il va réussir à s'imposer devant 80 personnes sans trop de problèmes, s'il ne dit pas trop de bêtises. Mais des fois, il y a des mecs qui n'ont aucun charisme, qui ne disent pas une bêtise et qui n'arrivent pas à s'imposer. Donc finalement, ce que j'aime bien en quatuor, c'est que quand on arrive à s'imposer, c'est où que sa personnalité arrive à le faire, mais ça n'a qu'un temps. Au bout d'un moment, c'est parce que ce qu'on propose est plus intéressant que ce que propose l'autre. Parce qu'on est rarement à 3-1. Si on est 3-1, celui qui est tout seul, il stay, il arrête. Mais si on est en affrontement tout à fait cordial, hein, mais un affrontement de moi je veux cet endroit-là piano, moi je veux cet endroit-là forte, c'est les arguments ou la façon de le démontrer qui vont gagner, entre guillemets. Ce qui va faire que là, vraiment, on est dans une démocratie. C'est le débat qui est privilégié et pas le fait juste de dire moi, il y en a plus fort que toi, moi, taper sur toi, c'est parce que si toi, pas jouer piano, quoi. C'est quand même beaucoup plus intéressant comme façon de fonctionner que tout ce qu'on peut voir, même en politique, où on essaye de prôner la diplomatie ou la démocratie, où finalement, il y a quand même un président, et puis ensuite, il y a un premier ministre, ensuite, il y a un conseil, puis ensuite, il y a une assemblée, puis ensuite, il y a des collectivités, ainsi de suite. Nous, c'est uniquement notre faculté à convaincre les autres qui peut faire qu'on arrive à nos fins.
Micro-société, comme dit Bernard Fournier. Et en fait, c'est les quatuors à cordes qui ont inventé la démocratie participative. C'est pas Ségolène Royal, ni Barack Obama.
Sur la complicité, l'amitié, je sais plus, j'ai vu un petit film promotionnel, je crois, où je crois que c'est vous qui évoquez, vous dites c'est un peu comme des frères finalement, plus que comme des amis. Il y a plus de frontières. Je vais pas vous demander l'intime, savoir si quand il y en a un qui veut aller au cinéma, est-ce qu'il appelle les trois autres pour leur dire tu viens avec nous ou pas, tu viens avec moi ou pas. Sure. Mais justement, le fait d'avoir cette complicité, enfin fraternelle, d'après vous, et de devoir se retrouver effectivement dans un système de création, d'interprétation, mais de création évidemment, ça a aussi une spécificité, j'imagine, par rapport à la musique. C'est-à-dire pas juste dire ça y est, hop, le boulot est terminé, on a fini l'enregistrement, on la répète, salut, à la prochaine, comme des collègues de bureau.
Ah oui, non, malheureusement. Bon, on essaye aussi d'installer ça un peu. C'est important, je crois, aussi d'installer cette espèce de côté. Bon, bah, la répétition commence à telle heure, soyons là, et puis on part à telle heure pour garder aussi un bout de vie privée, justement. Puisque ça, c'est la grosse difficulté du quatuor, c'est qu'au bout d'un moment, tout. Raphaël, il donne toujours cet exemple. Il dit, j'ai 5 frères et sœurs, et je connais bien mieux chacun de mes collègues que chacun de mes frères et sœurs. Et il a complètement raison, c'est tout à fait normal. Je crois même que nos meilleurs amis n'en connaissent peut-être pas autant réellement, parce que là, nous, vraiment, on vit ensemble, quoi. On vit dans une même famille, mais en plus, on ne peut pas vraiment se cacher de choses, parce que... Enfin, c'est très compliqué, mais en tout cas, moi, c'est vrai que je maintiens cette histoire de frères, parce que les amis, ça se choisit, les frères, ça se choisit pas, et on a une obligation ou de s'entendre bien avec eux ou de pas s'entendre avec eux. Et en général, par le lien familial installé, on se sent obligé d'aimer son frère, finalement, même si on trouve que son frère est un sale con, on doit essayer de trouver un moyen de l'accepter et qu'il nous accepte et qu'on soit bien ensemble. Et finalement, le quatuor à cordes, c'est un peu ça. Le quatuor à cordes, ou la cinquième personne qui représente le quatuor à cordes, c'est la famille, c'est l'entité familiale. Et nous sommes les quatre enfants qui avons l'obligation, pour que la famille subsiste, fonctionne et soit en équilibre, nous avons l'obligation de réussir à nous entendre le mieux possible. Mais c'est vrai aussi que on passe pas... ça peut nous arriver d'appeler un collègue pour faire un truc, pour sortir, mais finalement c'est assez rare.
Quand on est en tournée, ouais, c'est très courant. Mais quand on est à Paris, on a tous les quatre un besoin frénétique de retrouver nos amis, nos copines, notre vie intime. Mais il y a cette histoire de frères et sœurs. C'est une anecdote que je trouve très mignonne. C'était un concert qu'on a fait à Saint-Côme, à Tours, en mars dernier. Et mes parents sont venus écouter le concert avec ma petite sœur. Et au fond de la salle étaient assises les unes à côté des autres, nos quatre copines de l'époque, toutes les quatre les unes à côté des autres. Et là, ma petite sœur, elle les voit, elle dit « Oh, les belles sœurs !» Et elle n'a pas fait exprès. Donc ça prouve qu'implicitement, nous quatre, on est un peu une petite meute ou une micro-société. On vit comme des quatre petits chiots qui faisons leur chemin, quoi.
Alors, est-ce que la meute a un peu choisi déjà le programme du prochain album ou des idées de...
C'est même déjà enregistré. Ça sera le prochain disque classique. Ça sera un quatuor de Brahms, le premier, et le quintet avec piano de Brahms.
Avec une belle sœur
qui s'appelle Akiko Yamamoto, qui est pianiste, qu'on a rencontré en Angleterre et qui on a eu un coup de foudre musical très fort qui s'est transformé en coup de foudre pour le premier violon, parce que maintenant ils vont se marier. Mais c'est pas pour ça qu'on a enregistré. Nous ne vivons pas sous le joug du sentimentalisme de notre premier violon, mais donc on va faire ça. Et ensuite, parce que je commence, j'aimerais bien recommencer à en parler, on va faire un album. Alors ici, puisqu'on est actuellement dans les locaux de Virgin Classics et d'EMI, ici on appelle ça crossover. Et nous on va appeler ça les musiques qu'on aime ou je sais pas quoi. Enfin, en résumé, on fait déjà des arrangements de jazz, de pop, de trucs, voilà. Et on va faire tout un album entier avec énormément de styles de musique joués par un quatuor à cordes, des fois accompagné d'un batteur et des fois avec quelques chanteuses. A priori, ce sera des femmes qui vont aussi chanter des trucs qu'on aura arrangés. Donc voilà, donc on a fait un Pulp Fiction qui commence un peu à être connu. Voilà, et on va faire des choses dans cet esprit-là, de tout style. Chansons françaises, musique pop, world, jazz, standard.
Sur votre site, d'ailleurs, il y a un thème de Miles et un thème de Coréa également.
Voilà, de Coréa, qui seront sur ce disque-là si on arrive à avoir les droits. On ne sait jamais, mais si on a les droits, tout ira bien. Et donc ça sera l'album de 2010 qui est vraiment... Si on s'est retrouvé aujourd'hui là, c'est parce que voilà, il faut qu'on en parle, c'est compliqué, ça va être très long, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est un nouveau monde pour nous, mais ça nous excite très très fortement.
Si on met justement de côté l'aspect droit difficile, etc., avec s'il y avait un petit génie avec une baguette magique qui pouvait régler ce problème. Voilà, le but, c'est vraiment de mélanger les styles. Ça ne serait pas, par exemple, de vous axer jazz. Alors, c'est quoi la démarche? Est-ce que c'est d'amener votre voix sur des chansons, sur des thèmes que vous aimez, ou sur des styles? C'est quoi un peu la...
Franchement, au départ, c'est se faire plaisir. Ensuite, ça devient des bis d'après-concert, plutôt que de faire du classique, parce que un jour, on nous a dit, le bis, c'est votre cadeau au public. Donc, on s'est dit, bah, si on devait offrir un cadeau, on offrirait ça plutôt qu'autre chose. Et puis, au bout d'un moment, bah, écoutez, on va être honnête, hein, y a aussi un aspect commercial qui commence à rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à venir dire, ah, ça marche bien, ça, ça intéresse, c'est étonnant, c'est original, c'est tout ça. Donc, après, on part sur des tas de trucs. Mais finalement, c'est pour ça que j'ai dit musique qu'on aime, quoi. Parce que on est tous les quatre une somme de connaissances en musique autre que classique qui est différente. Raphaël est un très très grand amateur de jazz qui connaît beaucoup beaucoup de choses. Moi, moins, mais par contre très amateur de pop et aussi un peu de trucs bien français, bien de chez nous. Ça, j'avoue que je suis très fan. Et ben, j'ai envie d'en faire. Pierre Colombet, notre premier violon, est un fan d'énormément de choses, alors, dans tous les sens, mais il a quelque chose, un amour pour le groove ou pour les choses comme ça qui est quand même, qui n'a aucune limite. Fou de Radiohead et de gens comme ça. Gabriel, le second violon, pareil, full de connaissances. Donc on va mettre tout ça. Gabriel est peut-être le connaisseur de la musique de Queen, le plus incroyable de toute la France. Donc on va mettre de tout dans ce disque-là. Et on va rajouter des gens qui vont venir avec nous faire ça.
Ouais. C'est vrai qu'il y a un aspect commercial. Et ça nous met dans un rapport aux musiciens du monde classique, souvent ceux qui ont un certain âge, qui n'ont pas du tout été habitués à ça. C'est vrai que...
Surtout dans le quatuor.
Encore moins. Mais c'est vrai que si on revient 30 ans en arrière, y avait déjà des petites choses dites crossover qui arrivaient. Il y avait des choses qui ont été faites très bien. Je pense le trio Jacques Loussier, des choses comme ça. Mais c'était souvent encore expérimental. Aujourd'hui, on sait déjà que pas mal de gens vont dire « Ah ben voilà, ça y est, les Ben, ils font carrière, donc ça, ils font du fric, quoi. » Et en fait, derrière ça, il y a aussi un objectif très excitant puisqu'on a nous-mêmes vérifié, fait l'expérience, et même souffert parfois, d'être un peu relégué au fond de la pièce, dans le petit domaine des musiciens classiques, qui jouent que pour des bourgeois en manteau de fourrure à la salle Pleyel, qui ont soi-disant payé très cher leur billet, ce qui est faux, parce que vous allez au Zénith voir n'importe quel artiste de variété, vous payez le double d'une place d'un orchestre symphonique, qui coûtera pourtant beaucoup plus cher en subvention. Enfin bref, il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. Mais c'est tout le côté consumériste autour de la musique, c'est l'industrie du disque, c'est l'industrie du concert. Bon. Et nous, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est tisser avec les publics un rapport qui nous permette de voyager ensemble avec le public d'un style à l'autre, et non pas de dire vous êtes un public classique, donc on va vous jouer du classique et puis on va aller faire du jazz pour un public de jazz. C'est beaucoup plus excitant de rencontrer quelqu'un qui est jeune, qui peut-être qui passe son bac, qui pour la première fois de sa vie, parce qu'il a choisi option musique, va écouter un peu de Piazzolla parce que c'est au programme du ministère, et d'un seul coup il va être bouleversé par un mouvement d'un quatuor de Beethoven parce qu'il sera venu nous voir à un concert parce que c'est un copain, sinon il serait jamais venu. Et ce chemin là pour nous, c'est la preuve que l'émotion musicale englobe vraiment tous les styles, qu'il n'y a pas une émotion particulière pour le classique qui serait une émotion tellement différente des autres musiques que ce serait pas qu'on pourrait pas passer de l'un à l'autre. C'est pas vrai, et on le sait depuis longtemps pour l'avoir nous-mêmes éprouvé. Moi, quand j'avais 13 ans et que je mettais Hotel California dans ma chaîne avant d'aller en cours de solfège, je prenais beaucoup plus de plaisir qu'en cours de solfège à faire mes dictées de notes. Et pourtant, je suis devenu musicien dit classique, mais il y a quelque chose d'un peu refoulé, d'un peu honteux. Alors que bon, vous voyez, Alexandre Tarot qui fait un concert entier en hommage à Barbara au Théâtre du Châtelet le dimanche matin, ça marche très bien, ça fait plaisir à tout le monde, et c'est pas une injure monumentale au circuit classique. Le problème, c'est un problème de qualité quand même, surtout, dans le crossover.
On est quand même dans une époque qui change beaucoup à ce niveau-là, je crois, c'est vrai. Des gens comme Yehudi Menuhin, justement, si tu parlais des gens qui ont commencé à faire un peu de crossover, j'ai pensé à lui, c'est vrai que par exemple, Menuhin qui allait voir Ravi Shankar, tout simplement, et puis après qui a fait encore d'autres trucs, Ivry Gitlis qui a fait des trucs avec Léo Ferret et d'autres. On est quand même dans une époque où ça se fait de plus en plus, et c'est vrai que je suis d'accord avec lui. J'ai une belle souffrance à voir à quel point on est un peu cantonné, comme si. Mais même, vous savez, dans le métro avec une boîte de violoncelle dans le dos, vous voyez les gens qui vous regardent comme si.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Oui, des fois ils croient que c'est une guitare, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque de la Starac, quoi, et tout ça, de ce genre de choses qui donnent l'impression à des milliers de jeunes que la musique, c'est uniquement aller s'enfermer 15 jours dans un château et qu'après on peut ressortir et qu'on connaît tout et qu'on fait carrière et que c'est ça le seul truc intéressant. Moi, j'aime bien l'idée qu'on va arriver. Vous voyez, tout à l'heure, on était dans le bureau en train de discuter de cet album. Il y a Stay Second qui est rentré. On voulait Stay Second sur ce disque. on en avait déjà parlé depuis longtemps, elle était là comme par hasard chez son producteur, et puis on se retrouve, on a discuté 5 minutes, et puis après on va faire des trucs ensemble. C'est ça aussi la musique, quoi. C'est des petites rencontres de 2 secondes dans des coins, autour d'un café ou n'importe quoi, où on peut faire des choses vachement sympas après. J'espère qu'on pourra le faire, et là, en tout cas, on va s'éclater.
Opinion vous avez sur l'état de la musique, j'allais dire, alors on va revenir sur le classique, parce que là vous avez effectivement évoqué un peu, j'allais dire, l'aspect, la manière dont est perçu le classique parfois, ce côté, ce que vous avez évoqué, un peu ce cliché de gens en manteau de fourrure qui viennent au concert et tout. Plus sur l'aspect musical, comment vous, la composition, l'éducation de la musique, le conservatoire, etc. Quelle vision vous avez sur la musique classique aujourd'hui en France? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que vous êtes très...
On en a beaucoup, on en parle souvent. On est assez. Pour ce qui est, vous avez parlé de l'éducation et du conservatoire. Pour ça, c'est une première chose, puisqu'en plus, il faut que ce soit bien clair. L'éducation scolaire de la musique, c'est lamentable. Avec un grand L. C'est vraiment. Il y a vraiment toute une partie, je trouve, de l'éducation nationale, la façon dont elle essaye de donner la musique aux jeunes, elle est franchement rébarbative. Pas du tout assez actuel. C'est vraiment, je trouve, très dommage. Moi, j'ai été un moment professeur de musique dans un collège, peu de temps, puisque j'ai craqué. Mais je racontais ça à mes collègues il y a quelques jours. On m'a donné un programme scolaire à remplir, donc il y avait des œuvres à étudier. Et bon, alors avec les gamins de 11 ans, ça marchait à peu près, avec ceux de 14 ans, c'était une catastrophe. Donc pour ceux qui allaient être bientôt au lycée autre, et j'avais même des lycéens, c'était impossible de leur faire écouter du Tchaïkovski ou du Bach ou autre. Enfin, ils s'en foutaient, ils faisaient les cons, enfin, c'était ingérable. Donc au bout d'un moment, comme j'en pouvais plus et que je voulais quand même qu'ils apprennent des choses, j'ai commencé à mettre les Beatles, à mettre les Rolling Stones, à mettre du jazz, à mettre des choses comme ça. Là, j'ai réussi à les intéresser et je me suis fait engueuler par le proviseur parce que je suivais pas le programme. Donc je me suis barré, ce qui était assez logique. C'est la preuve que c'est nul, quoi. Parce qu'en fait, normalement, on devrait juste essayer de motiver leur imagination, de leur faire apprendre des trucs, et que ça soit sur les Beatles ou sur Mozart, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de réussir à ce qu'ils aient vu un peu ce que c'est que la musique en général, et qu'ils se rendent compte que finalement, c'est les mêmes musiques, que c'est la même base, qu'une chanson et un air d'opéra, c'est finalement la même chose, et que ça peut s'apprécier de la même façon. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est très mal fait. J'espère qu'un jour, ça changera, mais bon, j'y crois pas trop. Et je sais pas si un jour dans ma vie, ou dans notre vie, on pourra faire quelque chose pour ça. Si on peut, j'espère qu'on le fera. Ensuite, il y a les conservatoires. Alors bon, ça, c'est très compliqué. La France, c'est un pays compliqué au niveau des conservatoires. Il y a grosso modo 4 types, 5 types. Les associations, les conservatoires municipaux, les conservatoires nationaux, les conservatoires nationaux de région, et 2 conservatoires supérieurs. Les conservatoires supérieurs, ils ont tous les deux une façon de fonctionner un peu différente. Puisqu'on peut parler de choses qu'on connaît, la musique de chambre, là c'est pareil que l'éducation nationale, c'est lamentable. C'est très très peu, on nous aide pas, on n'essaye pas d'encourager cette initiative-là, qui est pourtant une initiative personnelle et dans le bon sens du terme. On a été au CNSM de Lyon avec Gabriel, le second violon. On a essayé de leur expliquer, une fois qu'on avait gagné un grand concours de quatuor, que ça allait être difficile, mais qu'on voulait vraiment finir nos études, mais qu'il fallait juste nous aider, par exemple, en nous enlevant l'option musique de chambre, par exemple, puisqu'on faisait quand même 8 heures de quatuor par jour. Donc normalement, musique de chambre, ça devait aller. C'était impossible de négocier. Ils étaient complètement... Nos deux collègues ont fait des efforts énormes. C'est-à-dire que pour qu'on puisse passer ça, ils sont venus à Lyon régulièrement essayer d'étudier avec nous. Et on n'a eu aucun soutien. De l'autre côté, CNSM de Paris, on a été élève. Il y a actuellement 3 studios de musique de chambre sur je ne sais pas combien de salles pour je ne sais pas combien d'élèves. Combien il y a d'élèves ?
Il y a 1200 élèves.
1200 élèves.
Et c'est même pas 3. Je crois qu'à une époque, c'était descendu à 2 studios de musique de chambre réservables.
Et qu'on peut garder une heure, voilà, ou une heure et demie, et où il faut au moins attendre encore une heure et demie, parce que normalement, il faut quelqu'un qui soit là un quart d'heure. Enfin, c'est des trucs, c'est complètement délirant. Et un jour, je suis...
On a privilégié une espèce de prestige, de splendeur pour cet établissement historique. C'est vrai que le Conservatoire de Paris, c'est une institution qui a justement été dirigée par Gabriel Fauré. Ça nous ramène au début de l'interview. Mais la grande époque du Conservatoire de Paris semble derrière nous, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est pas possible d'étudier dedans sans être à se bousculer bêtement pour rentrer dans une salle, sans être soupçonné de vandalisme quand il y a une fenêtre cassée, alors que c'est un beau bâtiment à voir, mais ça fait partie de ces choses modernes qui sont construites à la va-vite pour des raisons budgétaires et ainsi de suite. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat politique. Simplement, ce qui nous préoccupe, nous, c'est qu'on a fait l'expérience et on la vérifie à chaque fois qu'on a l'occasion de donner des cours ou alors à chaque fois qu'on a l'occasion de faire une petite expérience au sein d'un orchestre, par exemple. C'est-à-dire rencontrer d'autres musiciens, on se rend bien compte que la musique de chambre, c'est la meilleure école d'écoute instantanée de l'autre, de réaction, d'interaction, et que l'enseignement de la musique dans les conservatoires est à 90% ciblé sur la performance individuelle et la maîtrise technique de son instrument, mais sans autre but apparent que d'être brillant par soi-même. Qu'on peut résumer par le solisme, en fait. Et ça, c'est quand même assez réducteur, parce que la musique, c'est évidemment un langage, on l'a dit mille fois, un langage universel, une façon de communiquer. Et finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un prix de CNSM pour sortir un accordéon dans un bar à 1h du matin. Mais c'est là que les gens se communiquent entre eux et se touchent. Et malheureusement, l'élitisme, ou à mon avis, occulte cette part qui peut être d'ailleurs tout aussi élitiste dans un sens positif que la musique de chambre peut apporter.
Ouais. De toute façon, voilà. Bon, ça, c'est l'éducation. Ouais. Dans votre question, il y avait aussi...
Bah, la composition, l'état.
Ouais, alors là, par contre, je dois dire que si on parle d'un point de vue un peu commercial, même, disons, finalement, l'industrie du disque classique, elle va plutôt pas mal, en fait, par rapport... On est moins téléchargé que les autres, enfin, téléchargé illégalement, hein, puisque...
Excusez-moi, on est très téléchargé illégalement.
Voilà, on est moins piraté, quoi, tout simplement. Les concerts, écoutez, moi, je peux vous dire que, sur le terrain, on a toujours du monde dans les concerts, en France ou ailleurs. On vient de faire plusieurs salles... Enfin, deux petites salles françaises, enfin, théâtres nationaux, mais où c'est quand même pas normalement le truc où il y a le plus de musique classique, où il n'y a pas un public habitué, bah, il y avait quand même vraiment du monde. Il y a des moyens d'y arriver, je pense qu'à ce niveau-là, moi j'ai encore de l'espoir que, comme de toute façon, en général, l'histoire n'est qu'un espèce de cycle comme ça qui se remet toujours. Je pense qu'on va avoir un truc bizarre avec le classique un jour, ou que ça va redevenir un truc, ouais, à la mode.
Ce qui s'est passé la semaine dernière, YouTube a annoncé, la création d'un orchestre symphonique où les gens, avec des auditions sur Internet, de solistes à travers le monde, c'est YouTube et MSN qui a lancé ça la semaine dernière.
C'est pas vrai.
Le YouTube Symphony Orchestra.
Et ben voilà.
Vous pouvez postuler, on ne sait jamais. Hein.
Et ben voilà. Guerre
entre les quatre frères.
Ben on y est. Moi, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Un jour, il va y avoir une espèce de mode qui va revenir, parce que finalement, on peut le voir sous le bon côté des choses, et on est de plus en plus de musiciens classiques à trouver que c'est un peu dommage qu'on ait cette image-là, de vieillot, on a envie de dépoussiérer. Pas en devenant vulgaire, mais juste en étant un peu plus, plus conscient de la réalité. Parce que moi qui critique l'éducation nationale, c'est parce que je pense que c'est un système arriéré qui pouvait marcher il y a 60 ans, qui ne marche plus. Et bien je pense que la musique classique doit aussi évoluer, mais pas forcément... Je pense que le crossover n'est pas la solution, par exemple. C'est pas pour ça que nous, on va faire du crossover. C'est pas pour que les gens viennent... Enfin, si les gens peuvent venir dans un concert, dans un de nos concerts classiques, parce qu'ils nous ont vu en crossover, ce qui arrive déjà, ça commence déjà à se faire, et qu'ils aiment aussi, c'est super. Si par contre, ils viennent uniquement pour le crossover, bon, ben là, c'est un peu dommage, mais je pense qu'il y a des moyens de... En tout cas, pas se comporter comme si on était déjà des sarcophages, quoi, et des pharaons de la musique... C'est vrai qu'on vieillit plus vite que les autres, les musiciens classiques, des fois on a l'impression, c'est un peu dommage. Voilà.
et jouer des compositeurs vivants. Est-ce que c'est un chapitre
C'est à mon avis passionnant, découvrir des partitions, de voir. Ce serait, oui, c'est-à-dire que déjà une société qui ne crée pas, c'est quand même une société à un stade de décadence très avancé. On peut lire à travers la création. On peut lire en gros comment, combien l'inconscient collectif a de l'imagination, s'intéresse à ça. Mais justement, c'est dans la question précédente, c'était ça aussi le point. Il y a beaucoup de gens qui pensent, en étant consternés par l'art contemporain, en étant effarés par une mise en scène ou par un Shakespeare qui va être massacré au Palais de Chaillot parce qu'on se lasse de faire des mises en scène traditionnelles, ou ces gens-là auraient tendance à dire « bon, en fait, on ne peut plus créer ». Parce que tout a déjà été fait. En musique, c'est intéressant. Là, le XXe siècle, pour ça, c'est passionnant. Schoenberg, dodécaphonisme, ok. Quart de ton, ok, fini. Qu'est-ce qui nous reste, là, maintenant, pour aller dans l'innovation ? L'informatique, mais c'est déjà fait, tout est fait. Maintenant, on en arrive à sampler un bruit de cailloux tapé contre une fourchette et faire de la musique avec. Donc et ça marche. Je veux dire, ça fait de la musique. C'est juste un problème de visibilité, de crédibilité. Il y a tout un débat là-dedans. Mais l'imagination est un peu bridée par, justement, cette peur qu'on a de dépasser cette époque quand même qui a été sublime, hein, l'histoire de la musique occidentale jusqu'en 1950, mettons, de Monteverdi au dernier Richard Strauss, tout est écrit, tout a été interprété, enregistré, réenregistré, réinterprété, authentifié, labellisé par les baroqueux après la guerre et tout ça. Bon, c'est merveilleux, mais ça n'empêche pas que le désintérêt massif pour la création aujourd'hui reflète, à mon avis, une peur de créer et un complexe. Ça, c'est finalement... on est arrivé à un stade où la création, c'est d'abord je dois innover avant de se dire je dois écouter qu'est-ce qui résonne en moi et qu'est-ce qui doit sortir.
Parce qu'on a tout fait.
On a tout fait et en même temps on n'a pas tout fait. Moi je pense que le crossover c'est une tentative souvent vaine de faire un truc nouveau avec de l'ancien, c'est du recyclage en fait.
Je crois que vous avez rencontré Courtac, non je crois ?
Oh oui.
Voilà. Donc quand vous vous retrouvez comme ça face à un compositeur, et pas non plus un des moindres on va dire, c'est ce genre de sujet aussi, c'est de savoir c'est la création par rapport à ce que vous venez de dire, tout a été fait, est-ce que vraiment tout a été fait, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bord de la falaise.
Le problème c'est qu'il y a la création et puis il y a l'interprète qui joue la création. Quoi.
Poser ces questions même si vous ne composez pas j'imagine quand même.
Si, lui il est en train d'écrire un concerto pour Quatuor par exemple.
Voilà la réponse.
Donc voilà, et on fait d'autres choses que de la composition forcément dite...
Écrite, oui, on compose quand on fait nos arrangements.
Quand on fait nos arrangements, c'est vraiment proche de la composition. Maintenant, non, la problématique, c'est que, comme je le disais au début, Raphaël répondait, c'est que pour moi c'est une mission. C'est-à-dire que le musicien est obligé de reconnaître que Mozart, à son époque, n'était pas considéré comme il est maintenant. Et que si on n'y avait pas eu des gens pour se battre pour Mozart, on n'aurait peut-être pas connu Mozart. Comme Bach, d'ailleurs, a disparu presque pendant plus d'un siècle avant que Mendelssohn essaye de le ressortir et réussisse à le faire, heureusement. Sinon, imaginez la perte pour la musique, quand même. Donc c'est une mission de l'interprète. Et là où je suis vraiment malhonnête, c'est que cette mission-là, je ne l'assume pas du tout. C'est-à-dire que le problème aussi de la musique actuelle, il y en a pour moi deux. La problématique première, c'est ne pas avoir de recul sur sa qualité du tout. C'est-à-dire, je ne veux pas dire dans le sens où... C'est que des fois, on va vous dire « Bonjour, je suis compositeur ». On en reçoit tous les jours, en fait, presque. Enfin, toute l'année, on en reçoit. Moi, j'ai déjà des kilos de partitions en retard qu'il faudrait qu'on lise, mais qu'on ne lira peut-être jamais, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. C'est bête à dire, mais vous avez des gens qui écrivent une demi-heure de musique, très compliquée à déchiffrer. Il faudrait déjà passer une semaine de boulot dessus pour pouvoir regarder à quoi elle ressemble. Et si c'est mauvais, vous avez perdu 8 jours. Quoi. C'est aussi bête que ça. Et, c'est peut-être pas perdu, mais sauf que nous, on a des concerts à faire, on a notre métier à faire, on a nos arrangements à créer, notre jazz à faire et tout ça. Alors évidemment, quand vous êtes devant un mec comme Courtac, là, vous faites un peu moins les malins et vous dites « bon, on a déjà de la chance ». Donc nous, on a travaillé une œuvre de Courtac avec lui. Bon, le problème, c'est qu'il n'aimait pas trop ce qu'on faisait, qu'il a été méchant, il a été dur. Sur cette œuvre-là, il a été très gentil sur d'autres choses, mais sur son œuvre, il n'a vraiment pas été très, 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 très cool avec nous. Et est-ce que les compositeurs
sont... C'est injuste, ces réflexions, d'après vous ?
Je ne sais pas, moi. Moi, il y a une réflexion que j'ai trouvée, pas injuste, mais idiote. C'est qu'on est arrivé, donc, avec une lecture améliorée, enfin, quand même, en ayant pas mal travaillé, même si on n'était pas encore prêt, mais on était bien pour le voir. Et on avait encore 8 jours de boulot avec lui avant de le jouer en concert. Et il nous a dit, vous auriez pu écouter, j'ai quand même validé 2 enregistrements. On avait écouté les 2 enregistrements et les 2 enregistrements étaient franchement pas du tout pareils. Et donc il avait l'air de nous dire, vous avez rien compris à ma musique en la lisant et vous auriez pu écouter mes versions où j'étais d'accord, sauf que apparemment il n'était pas d'accord avec lui-même, quoi, tout simplement, parce que franchement c'était très différent.
Oui, mais ça, bon, le créateur a toujours ses paradoxes. On verra post-mortem, hein, aussi.
C'est bien ça l'idée. Est-ce que le créateur, est-ce que le compositeur est le meilleur interprète?
Alors justement, Raphaël, vous avez le créateur, ça, vous parlez de...
Oui, oui. Pour l'instant, j'ai écrit une mesure au bois. Mais j'ai encore un peu de temps.
Il me l'a montré hier, ça a l'air bien.
Non, mais justement, c'est intéressant. C'est-à-dire, ne serait-ce, je ne sais pas où ça va aboutir, mais il y a une volonté de composition, déjà. C'est quand même une
spécificité. Oui, là, vous êtes en train d'interviewer un modeste musicien, c'est plus le Quatuor Ébène, c'est des histoires. Quand j'avais 12 ans, j'écrivais des trucs, j'ai abandonné, et puis c'est vrai qu'on m'a proposé de faire ça, et ça a réveillé un truc en moi, c'est très excitant, je vais essayer de me débrouiller pour trouver le temps de faire ça. C'est un peu un saut dans l'inconnu, moi je suis en fait très reconnaissant et très heureux de faire partie du Quatuor Ébène, parce que je peux vous garantir que s'il n'y avait pas le Quatuor Ébène, on ne m'aurait jamais demandé un truc pareil. Le commanditaire sait très bien que c'est une manière aussi pour lui d'avoir le Quatuor Ébène comme soliste pour son orchestre. Mais ouais, pour la création, justement, j'aurais aimé, moi, dans une autre vie, plutôt que d'entamer le Quatuor, faire mes 10 années au CNSM, harmonie, contrepoint, fugue, improvisation, composition, et puis musique assistée par ordinateur, toutes ces options qui sont intéressantes, mais on ne peut pas tout faire. Et je me rends compte, à quelques expériences, que finalement, la composition, c'est beaucoup plus proche qu'on ne le croit de la littérature ou que du théâtre. C'est-à-dire que le plus important dans ces arts-là, c'est absolument pas le style au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire le mode d'écriture. C'est exactement comme si vous demandiez à un acteur de jouer un rôle. Le plus important n'est pas de savoir s'il va avoir la peau jaune, la peau blanche, la peau rouge ou la peau noire. Le plus important, c'est de savoir combien de temps de silence il va laisser entre ses répliques, comment il va réussir avec son simple jeu du regard à accrocher l'écran ou pas. Et ça, au casting, vous le savez. Et en fait, je pense que la musique, c'est avant tout une histoire de temps. La musique, c'est avant tout, qu'est-ce qui sépare les événements ? Combien de temps sépare les événements ? Et ensuite, bien sûr, c'est une question d'harmonie, mais on a tous entendu Au clair de la lune, et si c'est pour la quasi-totalité de la population, c'est la première chose qu'on apprend, c'est parce que, si vous comptez bien, Au clair de la lune, mon ami Pierrot, c'est assez simple, chaque son est prononcé à intervalles réguliers, à l'exception de lune. Et les intervalles, souvent on voit ça chez les jeunes gamins qui n'ont pas vraiment connecté leur oreille encore, qui n'ont pas branché. Ils peuvent chanter ça extrêmement faux, ça arrive. Vous en avez qui... Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et ça c'est bizarre. On se dit, mais c'est pas possible. Ce gamin est antidoué. En fait, pas du tout. Mais ce qui est marrant, c'est que le premier élément, c'est quand même la périodicité. Dans le temps, les éléments se répètent. On a tous un cœur qui bat à peu près à une allure régulière. Et c'est ça qui explique, à mon avis, le choc d'une musique. Si la musique, c'est un bavardage ininterrompu, comme on ouvre un robinet et que ça coule, quel que soit son style, elle n'a aucun intérêt. Et tout ça pour dire que composer aujourd'hui en 2008, je pense que c'est avant tout une histoire de s'approprier le temps pour raconter une histoire à l'intérieur avec des virgules, avec des points d'exclamation et avec surtout des silences. Le silence a un rôle absolument capital en musique, et c'est aussi peut-être le danger de notre époque, c'est que le silence, on le trouve plus nulle part.
Dans cette pièce. En haut du Mont Pariou, dimanche soir, vers minuit.
Ouais. Ah, mais okay. 50% de la population mondiale vit en ville, et même si on se tait tous les trois, dans cette pièce, il y a un petit bruit toujours de climatisation, et il y a les voitures qui passent derrière.
Alors le temps, parfois il vous manque, pour lire des partitions, pour d'autres choses. Est-ce que dans le temps qui vous reste, vous êtes glouton de musique, est-ce que vous achetez, vous téléchargez, vous allez au concert, est-ce que quand c'est pas vous évidemment, est-ce que vous même pas le temps?
J'adore télécharger nos propres disques sur internet. On est encore assez vaillant hein, de ce côté-là. On n'est pas encore des.
Moi, je télécharge énormément. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Moi, j'adore le téléchargement. Je trouve ça extraordinaire, même si c'est vrai que ça a un côté un peu impersonnel parce qu'on reste chez soi et on peut tout avoir à la maison. Et moi, j'adore. C'est vrai que le soir, je suis avec ma copine. Je suis en train de préparer à manger. J'écoute un truc qui me fait penser à un autre truc de mon enfance que je n'ai pas entendu depuis des années. J'en ai pour 2 secondes à pouvoir aller l'acheter. Je l'écoute et je voyage avec ça de façon très, très forte et très intense. Donc, je suis à fond les ballons pour le téléchargement payant.
Les trois derniers, je sais pas, les trois derniers albums ou titres.
Les trois derniers albums ou titres que j'ai achetés. Alors j'ai acheté Jacques Brel. Je suis tombé sur une émission sur Jacques Brel qui m'a donné envie d'écouter du Brel. J'ai acheté du Brel, j'ai écouté du Brel. C'était aussi bête que ça. Ensuite, j'ai téléchargé un groupe obscur dont j'ai complètement oublié le nom, génial, que j'ai entendu durant une émission la nuit. Mais je peux plus vous dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça va me revenir une fois que je l'aurai vraiment écouté. Et il me semble qu'il y a 2 jours, j'ai acheté du classique. Mais vous voyez, je sais même plus ce que j'achète. Donc vraiment, j'en prends beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est justement en rapport avec tout ce que je vois autour de moi. Ça peut être, je rentre chez moi avec mon lecteur MP3 sur les oreilles, chut, pas de marque. Donc je rentre avec mon lecteur et puis j'écoute un truc qui va me faire penser à un autre truc. Je vais arriver chez moi, je vais prendre mon ordinateur et je vais télécharger et j'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça même beaucoup mieux que finalement que le support CD parce que ça prend pas de place. On peut en mettre des tonnes et des tonnes. Et moi, j'écoute des tonnes et des tonnes de musique. Je vis dedans, je baigne dedans. Donc je trouve ça fantastique.
On laissera au public le choix d'acheter votre album Ravel de Debussy Forêt, soit en le téléchargeant ou en l'achetant en CD. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup. Le demi, quoi, toi, Ruben.
Merci. Merci.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.